L'Iran affirme avoir informé l'AIEA de l'enrichissement de l'uranium à 60% sur le site Fordo. Yémen, 3000 enfants atteints de cancer succombent à cause du blocus. Et la France se prépare à une nouvelle série de grèves nationales contre le projet de la réforme des retraites. C'était les principaux titres, en voici le journal. Réagissant à la déclaration conjointe des États-Unis et de la Troïka européenne sur son programme nucléaire, l'Iran affirme avoir informé l'AIEA de l'enrichissement de l'uranium à 60% sur le site Fordo. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a déclaré dimanche 5 février que l'enrichissement d'uranium à 60% sur l'installation nucléaire de Fordo a été signalé à l'Agence internationale de l'énergie atomique le 17 novembre 2022 et que toutes les activités liées à l'enrichissement ont été incluses dans le formulaire d'enquête préparé à cet égard. Il a confirmé, selon le dernier processus d'inspection qui a eu lieu en janvier 2023, aucune action nouvelle ou contradictoire au texte du formulaire d'enquête 2022 qui nécessiterait une notification à l'agence n'a été enregistrée. S'empressant de réagir aux rapports hâtifs et provocateurs fournis lors de la récente visite de l'inspecteur de l'AIEA dans les installations nucléaires de Fordo, les États-Unis et le trio européen, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont prétendu que l'Iran s'est livré à des activités nucléaires incompatibles avec ses obligations en vertu du traité sur la non-prolifération nucléaire, TNP. Ils prennent note du rapport du 3 février de l'AIEA, selon lequel l'Iran a modifié de façon substantielle la configuration de ses centrifugeuses sans informer l'agence au préalable. Dans une prise de contact avec l'agence, jeudi 2 février, le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, OIOA, Mohammad Islami, a déploré que le rapport ait été rédigé sur la base d'une erreur commise par l'inspecteur de l'AIEA lors d'une visite inopinée sur le site. La position de l'agence est regrettable, a-t-il déclaré avant de poursuivre. Tout d'abord, les rapports sur n'importe quel pays, à l'exception de l'Iran, ne sont pas immédiatement accessibles aux médias. L'impression de l'inspecteur de l'agence après sa visite à Fordo était injuste, mais il l'a immédiatement communiqué à l'agence. De notre côté, nous lui avons fourni des explications. Un séisme de magnitude 7,8 a frappé lundi 6 février au sud de la Turquie et la Syrie voisine, faisant au moins 200 morts dans les deux pays et de très importants dégâts, selon de premiers bilans annoncés dans la matinée. En Turquie, le tremblement de terre a tué au moins 100 personnes et blessé des centaines d'autres. Le nombre de morts devrait s'alourdir en raison des lourds dégâts. Il a rasé des bâtiments dans les principales villes du sud de la Turquie, y compris Kahramanmara et Gaziantep, et a surpris la plupart des gens alors qu'ils dormaient encore. Le gouverneur de la province de Gaziantep a appelé les habitants à se rassembler dehors. Les secouristes turcs et la défense civile ainsi que les pompiers syriens étaient à l'œuvre lundi matin pour tenter d'extraire d'éventuelles victimes des décombres, selon les médias locaux. La Turquie est située sur l'une des zones sismiques les plus actives du monde. Fin novembre, un tremblement de terre de magnitude 6,1 a frappé le nord-ouest de la Turquie, faisant une cinquantaine de blessés et des dégâts limités. En janvier 2020, un séisme de magnitude 6,7 a frappé les provinces d'Elazik et de Malatya, faisant plus de 40 morts. En octobre de la même année, un tremblement de terre de magnitude 7 en mer Égée avait fait 114 morts et plus de 1000 blessés. Le tremblement de terre aurait également détruit un grand nombre de bâtiments à Alep et à Hama en Syrie. 42 morts et environ 200 blessés ont été signalés à Alep, Hama et Latakia à la suite du tremblement de terre dans un bilan préliminaire, a déclaré l'agence de presse officielle syrienne Sana, citant un responsable du ministère de la Santé. L'organisation Anti-SAF pour les droits des femmes et des enfants a déclaré samedi 4 février, dans un communiqué à l'occasion de la Journée mondiale contre le cancer, que plus de 3000 enfants yéménites souffrent d'un cancer à la suite de l'agression saoudienne et du blocus maritime, terrestre et aérien imposé au Yémen. Les enfants sont désormais entre la vie et la mort. Le groupe de défense des droits a critiqué les organisations internationales et d'autres organismes compétents pour avoir négligé les patients yéménites atteints de cancer au cours des dernières années. L'organisation a déclaré que le nombre d'enfants atteints de leucémie est en constante augmentation puisqu'il est passé de 300 cas à 700 cas dans la capitale Sanaa en raison de l'usage d'armes non conventionnelles fournies par les États-Unis et le Royaume-Uni à la coalition dirigée par l'Arabie saoudite. Environ 1000 enfants auraient également contracté la leucémie dans d'autres régions du Yémen pour les mêmes raisons, lit-on dans le communiqué de l'organisation. Le communiqué a souligné la grave pénurie de médicaments nécessaires au traitement des patients atteints de cancer en raison de l'assaut et du siège militaire dirigé par l'Arabie saoudite, déclarant que cela coûterait la vie à de nombreux enfants. L'organisation a noté que les difficultés économiques causées par l'agression et le blocus militaire en cours ont empêché les enfants qui souffrent d'un cancer de se faire soigner à l'étranger, appelant à la réouverture de l'aéroport international de Sanaa à des fins humanitaires. Cette organisation a finalement tenu l'Arabie saoudite et ses alliés pleinement responsables de tous les crimes et violations commis contre la nation yéménite, en particulier les enfants, exhortant la communauté internationale à assumer la responsabilité juridique et humanitaire des violations contre les civils. L'Arabie saoudite, en collaboration avec ses alliés arabes et avec le soutien en armes et en logistique des États-Unis et d'autres États occidentaux, a lancé une guerre dévastatrice contre le Yémen en mars 2015. Le régime sioniste a approuvé un plan de construction d'une nouvelle colonie de peuplement près de la bande de Gaza. Dans la foulée de ces activités illégales de construction de nouvelles colonies de peuplement sionistes, le régime de Tel Aviv a approuvé le développement d'une nouvelle colonie près de la bande de Gaza, en dépit de l'opposition de la communauté internationale. Le mouvement de résistance palestinien Hamas a condamné la politique d'apartheid en cours, affirmant que les colonies illégales ne seront pas un refuge sûr pour les colons. Le Hamas a publié dimanche un communiqué affirmant que la décision israélienne représente une escalade dangereuse qui n'apportera pas la sécurité ou la stabilité aux colons et n'accordera pas à l'occupation la légitimité ou la souveraineté sur notre terre. Le mouvement de résistance a souligné qu'Israël porte seul la responsabilité des conséquences du logement des colons près de la bande de Gaza et de leur mise en danger. Et il porte l'entière responsabilité de l'escalade de la colonisation dans toute la Cisjordanie. Nous appelons la communauté internationale à assumer sa responsabilité dans la lutte contre ces politiques d'occupation raciste qui menacent la paix et la sécurité dans la région, indique le communiqué du Hamas. La France se prépare à une nouvelle série de grèves nationales contre le projet de la réforme des retraites. De grosses perturbations sont à prévoir le mardi 7 février. La circulation des trains et des transports en commun en France sera fortement perturbée du lundi à mercredi, ainsi que les transports en commun dans la région d'Île-de-France. Troisième tour de manifestation contre la réforme des retraites a annoncé dimanche la Société nationale des chemins de fer SNCF du pays. Sur les grandes lignes, la SNCF s'attend à voir circuler un TGV sur deux en moyenne. C'était un sur trois lors de la précédente journée d'action, mardi 31 janvier. La SNCF conseille donc aux usagers des trains et des transports en commun dans la région parisienne d'annuler ou de reporter leurs déplacements prévus ces jours. L'opérateur ferroviaire a déclaré qu'environ la moitié du nombre habituel de services ferroviaires à grande vitesse sur les lignes intérieures fonctionnerait, tandis qu'un sur quatre sur la ligne Eurostar vers Londres ne fonctionnerait pas. Le projet de réforme des retraites présenté par le gouvernement à l'Assemblée nationale prévoit notamment le report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans contre 62 ans actuellement et la durée de cotisation pour bénéficier d'une retraite à taux plein à 43 ans. Deux grèves et manifestations nationales contre cette réforme ont eu lieu le 19 et 31 janvier en France, mobilisant chaque fois plus d'un million de manifestants dans la rue. Les sondages montrent que la plupart des Français sont contre ces réformes. 71% des Français soutiennent le mouvement de contestation contre cette réforme des retraites, révèle le sondage de Odoxa Backbone Consulting pour Le Figaro sur le lendemain de la deuxième grande journée de grève contre le projet de l'exécutif. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. De nouveaux foyers de résistance émergent malgré la politique d'arrestation israélienne. Les forces d'occupation israéliennes avaient détenu Khader Adnan dans sa ville natale d'Araba, près de Jenin. Adnan, 44 ans, avait été arrêté après que les forces israéliennes ont fait une descente chez lui et terrorisé sa famille au milieu de la nuit. Ces dernières années, ce membre du djihad islamique a été arrêté à plusieurs reprises, purgeant plusieurs peines de prison. Il a également entamé plusieurs reprises des grèves de la faim contre la politique de soi-disant détention administrative de Tel Aviv. D'autres Palestiniens ont été placés en garde à vue par les Israéliens dans les villages cisjordaniennes d'Adja et de Bir al-Bacha et dans les villes de Bani Naïm et Beit Fajar. Les forces israéliennes lancent des raids sur diverses villes de Cisjordanie occupées presque quotidiennement à la recherche de Palestiniens soupçonnés. Les raids conduisent généralement à de violents affrontements avec les habitants. Au cours des derniers mois, Israël a intensifié ses attaques contre des villes palestiniennes dans l'ensemble des territoires occupés. À la suite de ces attaques, des dizaines de Palestiniens ont perdu la vie et de nombreux autres ont été arrêtés. Il est à noter que l'arrestation du haut responsable du djihad islamique de la Palestine intervient alors que les groupes de la résistance émergent dans de nouveaux foyers. L'émergence d'un groupe de résistance palestinien affilié aux brigades Izzadine al-Rassam, la branche armée du Hamas, dans le camp de réfugiés palestiniens d'Arabat Jabr, situé dans la ville de Yejiro, a porté un coup sérieux aux services de sécurité et de renseignement du régime sioniste. Ces derniers se sont plutôt focalisés sur la situation dans les deux villes palestiniennes, Naplouse et Jenin, dans le but de surveiller les actions des groupes de la résistance. Le conflit armé du 4 février entre les combattants des brigades al-Rassam et les forces d'occupation israéliennes dans le camp d'Arabat Jabr a été considéré comme une forte claque au service de renseignement israélien. Les Nations Unies ont désigné 2022 comme l'année la plus meurtrière pour les Palestiniens de Cisjordanie depuis 16 ans. L'année dernière, les forces israéliennes ont tué au moins 171 Palestiniens en Cisjordanie et dans l'est de Rots occupé, dont plus de 30 enfants. Au moins 9000 autres ont été blessés. Selon le comité des affaires des prisonniers et des anciens prisonniers, 4700 prisonniers croupissent actuellement dans les prisons israéliennes, dont 29 femmes et 150 enfants. En outre, 850 personnes sont en détention administrative sans inculpation ni jugement. Les prisonniers palestiniens sont régulièrement soumis à des tortures systématiques par le régime sioniste pour s'être révoltés contre l'occupation.